Vous écoutez RFI, il est 23h ici à Paris, 22h en temps universel.
24h en France. Mathilde Cariou.
Dans 10 féminicides, c'est Noël. Les pancartes cyniques des femmes mobilisées contre les violences sexistes et sexuelles. Reportage, témoignage dès le début de ce journal. Décarboner la production d'acier, oui, mais pas à n'importe quel prix. Avant d'investir, ArcelorMittal demande des garanties à l'Union européenne. Le pape ira bien en Corse dans une quinzaine de jours, n'en déplaise au président qui aurait préféré le voir à Notre-Dame. Enfin, c'est un symbole de la résistance qui rentre au Panthéon. L'historien Marc Bloch rejoint le temple de la mémoire. Une marée de pancartes violettes dans toutes les grandes villes de France. Vous étiez des milliers à manifester aujourd'hui contre les violences sexistes et sexuelles. 100 000 à Paris, 80 000 à Marseille, indique la CGT. Alors le rendez-vous est annuel et le sera aussi longtemps que nécessaire. Mais cette année, en plein procès des viols de Mazan, le message résonne encore plus fort. Il faut une loi intégrale sur la prévention et l'éducation à l'égalité. Reportage dans le cortège parisien avec Amélie Beaucourt.
Je sais pas combien on est, mais ça fait tellement du bien, quoi. Vraiment, c'est tellement important.
C'est la première fois que Solène vient à Paris pour une manifestation contre les violences sexistes et sexuelles. Le cortège, immense, n'en finit plus de défiler devant ses yeux. Toutes les associations féministes, même celles qui ne sont pas sur la même ligne d'ordinaire, sont de la partie. Pour son amie Gabrielle, qui l'accompagne, c'est grâce au procès des violeurs de Gisèle Pelicot.
Dans ce tribunal, il y a la démonstration de tout ce qu'on peut vivre individuellement dans les violences sexistes et sexuelles, le déni, la culpabilité, et je pense que c'est un sentiment de colère général qui a mobilisé autour de ce procès.
La revendication première de cette mobilisation nationale, une loi cadre intégrale pour une politique publique de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Pour Zoé, ça veut dire donner les bons outils aux bonnes personnes.
Former les magistrats, former les policiers. Je pense que la loi est bien faite, je pense qu'il y a suffisamment de choses dans le code pénal. Mais je pense que c'est maintenant une question de changement des mentalités, de formation et de moyens mis contre les violences faites aux femmes.
Des moyens insuffisants pour le moment. 12 millions d'euros sont alloués chaque année à ce dossier. Les associations signataires de la loi cadre estiment qu'il en faudrait plus de 2 milliards.
Un reportage dans le cortège parisien signé Amélie Beaucourt. Démobilisation interdite, empêchée, étouffée au nom de la lutte contre le terrorisme. C'est ce que dénoncent les députés de la France Insoumise qui ont déposé mardi une proposition de loi pour abroger le délit d'apologie du terrorisme. Ils estiment que trop souvent ce motif est invoqué pour empêcher des événements, notamment en lien avec le conflit israélo-palestinien. Ce projet fait bondir les élus du socle commun, sans parler de ceux du RN. Difficile de faire plus ignoble, réagit Bruno Retailleau sur X. C'est une mauvaise nouvelle de plus pour l'économie française. Le géant de l'acier ArcelorMittal reporte les investissements prévus dans son usine de Dunkerque, dans le nord du pays. Dunkerque, c'est le plus haut fourneau d'Europe, avec une capacité de 7 millions de tonnes d'acier par an. Par contre, c'est aussi l'usine la plus polluante du pays, d'où l'investissement prévu par ArcelorMittal, 1,8 milliard d'euros pour décarboner sa production d'acier. Seulement voilà, sur ces 1,8 milliard, 850 millions d'euros sont issus de fonds publics et aujourd'hui, l'entreprise pose ses conditions. Bruxelles devra d'abord lui garantir des mesures de protection face à la concurrence chinoise. Sorte de chantage, Nathanaël Vitran qui inquiète fortement les salariés.
L'usine de Dunkerque, c'est 11 millions de tonnes de CO2, soit à elle toute seule près de 3% des émissions annuelles de la France. Le groupe s'était donc engagé à remplacer ses hauts fourneaux au charbon par des fours électriques. Écoutez, Mathieu Gel, le patron d'ArcelorMittal France, c'était il y a 2 ans, jour pour jour, sur BFM Business.
Le projet, c'est de remplacer aujourd'hui le charbon qu'on utilise par du gaz naturel, puis de l'hydrogène, et ce à l'horizon 2026-2027. C'est compliqué, mais en même temps, c'est notre métier et puis c'est la perspective de pérenniser nos activités industrielles.
Un investissement conséquent de près d'1,8 milliard d'euros, mais assuré quasiment pour moitié par l'État français. Le recul d'ArcelorMittal aujourd'hui met donc David Blaise, délégué syndical CGT, très en colère.
Il y a eu des aides publiques de l'État français à hauteur de 850 millions d'euros, sachant que le groupe a fait des milliards d'euros de bénéfices sur les 3 dernières années. Et aujourd'hui, le groupe se désengagerait de décarboner son site de Dunkerque. Pour moi, je vous le dis simplement, comme je le pense, hein, c'est juste une stratégie du groupe d'activer son développement sur l'Inde, sur le Brésil et sur le continent américain.
Les syndicats craignent que ce renoncement ne signe à terme la fin de la production à Dunkerque, alors qu'entre emplois directs et indirects, l'acier fait vivre une famille sur cinq dans la région.
24 heures en France.
La cathédrale d'Ajaccio plutôt que celle de Notre-Dame. Le pape confirme sa visite en Corse le 15 décembre prochain, quitte à vexer le président qui aurait préféré qu'il vienne assister à la réouverture de Notre-Dame une semaine plus tôt. Le premier homme de l'île, Gilles Simeoni, s'en réjouit car c'est la première fois qu'un souverain pontife fait le choix de la Corse. Un voyage qui confirme l'appétence de François pour les enjeux méditerranéens. Précision depuis Rome avec Eric Sénanc.
Si le pape ne viendra pas à Paris pour l'inauguration de Notre-Dame, suscitant des incompréhensions, François foulera en revanche le sol de la Corse une semaine plus tard, une première pour un souverain pontife. Un nouveau voyage au cœur de cette Méditerranée, véritable fil rouge de son pontificat. En 2013, le chef de l'Église catholique avait réservé son premier déplacement sur la petite île de Lampedusa, symbole du drame des routes migratoires. Ses voyages l'ont ensuite mené à Malte, à Chypre ou encore sur l'île grecque de Lesbos, une prédilection pour la Mare Nostrum déjà concrétisée par sa venue à Marseille l'an dernier à l'occasion des rencontres méditerranéennes. Lors de sa journée prévue à Ajaccio, François doit prononcer le discours de clôture d'un colloque sur le thème de la religiosité populaire. Pour le pape argentin, l'expression de cette piété reste essentielle dans la foi des croyants. Le pape s'arrêtera aussi à la cathédrale, célébrera une messe non loin d'une statue de Napoléon et devrait s'entretenir avec Emmanuel Macron peu avant son retour à Rome. Ce voyage express en Corse, le troisième en France pour François après Strasbourg en 2014 et Marseille l'an passé, interviendra deux jours seulement avant son 88e anniversaire. Éric Sénanc, Rome, RFI.
À Strasbourg, où le président Macron célébrait aujourd'hui le 80e anniversaire de la libération. Il a rendu hommage à tout le monde, des résistants au malgré nous, ces Alsaciens incorporés alors à l'armée allemande. Il a également annoncé la prochaine panthéonisation, celle de l'historien Marc Bloch, enseignant à l'université de Strasbourg de 1919 à 1936, résistant, capturé, torturé puis assassiné par les nazis le 16 juin 1944. Son portrait est signé Grégory Mott.
Audace des mots et des idées qui se doubla du courage physique.
Marc Bloch, le patriote qui avait déjà combattu pendant la Première Guerre mondiale, est accablé par la déroute de 1940. Il écrit un ouvrage de référence, L'étrange défaite, analyse à chaud de l'effondrement de l'armée française. Ce républicain juif refuse ensuite les lois antisémites de Vichy et en 1943, il entre dans la résistance à Lyon. Il a 53 ans. Laurent Douzou, professeur émérite à Sciences Po Lyon et spécialiste de la résistance.
Au début, il aide à rédiger des revues clandestines. Puis petit à petit, comme il devient un responsable important, il va coordonner l'action des résistants qui se trouvent placés sous ses ordres.
Le 8 mars 44, il est arrêté et torturé, puis exécuté par les nazis le 16 juin. Pendant sa période de captivité, cet infatigable passeur de savoir donne des cours d'histoire aux autres prisonniers. La recherche historique en France doit beaucoup à ce spécialiste du Moyen-Âge.
Qui propose une toute nouvelle vision de l'histoire. On rompt avec l'histoire traditionnelle assise sur des dates, sur des chronologies très précises et on essaie en profondeur de comprendre la société qu'on étudie.
En combinant l'approche historique, économique et sociale.
Et la petite fille de Marc Bloch fait part de sa très grande émotion, très grande fierté à cette annonce. C'est le quatrième résistant panthéonisé par Emmanuel Macron après Joséphine Baker, Missak et Méliné Manouchian. Sansal écrit « Il ne tue pas » les mots de Kamel Daoud dans le journal Le Point, relayé par plusieurs prix Nobel aujourd'hui. Il réclame la libération de Boulem Sansal, arrêté, c'est confirmé par les autorités algériennes. Il devrait être présenté à la justice d'ici demain pour atteinte à l'intégrité de l'État. L'Olympique de Marseille retrouve des couleurs après cette lourde défaite contre Auxerre. Les Olympiens se sont ressaisis cet après-midi sur la pelouse de Lens. Victoire 3 buts à 1 dans une rencontre ponctuée de décisions défavorables aux Lensois. C'est un scénario cruel, nous dit Florian Sotaka, l'attaquant des 100 et or.
C'est dur parce que on fait une très bonne première mi-temps. Voilà, on les met beaucoup en difficulté. Je pense que sur l'ensemble de la première, on doit mener. Après, forcément, en deuxième mi-temps, on se livre et on était efficace. Donc voilà, chacun a eu sa mi-temps, on a eu la nôtre. En première, on n'a pas su être efficace et on perd ce match. Voilà, ça fait partie du jeu.
Lens qui s'installe à la 8e place du classement, Marseille à la 3e. 24 heures en France, c'est terminé pour aujourd'hui. Les journaux de la nuit, à partir de minuit, seront présentés par Mathis Slimano. En attendant, vous écoutez RFI, il est 23h10 ici à Paris.